R22, tout le monde, antenne, les laboratoires d'Aubervilliers.
Juste pour expliquer le dispositif, je ne sais pas si vous connaissez la radio R22, qui est une radio qui a été initiée par l'espace Chiasma, qui est un lieu qui a été créé par Olivier Marbeuf, qui est un, on va dire, commissaire, mais, chercheur, qui a créé ce lieu, l'espace Chiasma, au Lila, qui est maintenant un espace qui n'existe plus, par manque de subventions, il n'a pas été soutenu par la région. Mais R22 est la radio qui émane en fait de ce lieu, qui a fait une grosse programmation pendant une dizaine d'années, avec un travail vraiment sur le territoire et les habitants. Et donc cette radio, et c'est ce qui reste, et ils ont une plateforme sur Internet, et l'idée c'est vraiment ils sont vraiment sur le créneau art et recherche. Donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant en lien avec le travail de Julia justement. Et donc du coup voilà, donc ces micros qui sont un dispositif un peu lourd permettent d'enregistrer la discussion, parce que c'est avant tout une discussion. Ça s'appelle donc les discussions de la semeuse. C'est un programme de discussion qui a été initié en janvier. À partir de janvier, donc tous les mois, avec une discussion et une invitation particulière. Pourquoi les discussions ? Parce que ce qui était intéressant cette année, j'ai trouvé, c'est vraiment de revenir au point de vue situé, donc d'inviter des personnes qui parlent de leur pratique avant tout, et à partir d'une pratique, donc d'ouvrir à une discussion entre nous et de manière hyper ouverte. Donc l'idée, c'est vraiment... pouvait intervenir, enfin voilà, poser des questions, et puis après on ouvre. Donc discussion de la semeuse. Donc là il y a eu, pour vous dire qui a été invité. Donc c'était pas tous les mois, c'était un peu évident, mais bon, on va dire l'idée c'est de partir sur tous les mois. Donc il y a Léonard Nguyen Vanté qui fait partie du mouvement Guérilla Gardening. Donc, qui a été le premier invité, qui a parlé de sa pratique justement. Christophe Lorenz, qui est un chercheur en architecture et qui a monté une formation, donc un DSA alternative urbaine. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a réussi à emmener ses étudiants à Notre-Dame-des-Landes, payés par le ministère en tout cas financé par ou totalement financé quoi. Et donc moi je trouve ça c'est génial comme manière de travailler dans les interstices quoi. Et donc du coup Julia qui est la troisième personne que j'invite dans le cadre de la semeuse, et du coup que j'ai rencontré dans le cadre du colloque de Aware, qui était genre et espace, enfin c'était un partenariat entre Aware, l'ENSA Paris-Malaquais et la Monnaie de Paris. Genre espace, pas de politique, pas de chien, pas de femme. Et j'avais beaucoup aimé ton intervention, parce que tu as commencé par dire je parle de mon point de vue situé, je parle de d'où je suis. Et en fait, je me suis dit voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Et,
merci.
J'ai voulu t'inviter pour cette troisième discussion. Voilà, je pense que ça suffit pour en termes de présentation. Et voilà, je te laisse la parole. Et n'hésitez pas à prendre le micro si vous voulez intervenir. Voilà.
Merci beaucoup, Ariane. C'est très bizarre de parler avec vous et avec un micro aussi. Mais bon. On y arrivera. Et alors, bonsoir à toutes. je ne sais pas si, vu qu'on est un si petit comité, on peut commencer pour se faire un tour de table et se connaître avant tout, ou ça vous gêne ? Parce que ça... Ouais, moi, Ariane m'a déjà présenté un peu, et après, je me présenterai beaucoup mieux. Vous en sentirez beaucoup de moi, donc... Enchantée.
Ah bah oui,
bonsoir. Moi, je m'appelle Lise
Que dire, bah, je connais cet endroit par mon école parce que je suis aux Beaux-Arts de Cergy et grâce à Claudia Triodi qui est plus ou moins résidente ici, qui nous avait invités, qui avait invité des étudiants à venir ici. Et du coup, depuis, je suis l'actualité du lieu et notamment, enfin, la semeuse, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, je suis un peu de loin, enfin, je regarde ce qui se passe de loin, mais ça m'intéresse beaucoup. Comme sujet, voilà.
Merci.
Bonsoir, Pascal, cofondatrice de Jean Riville, et je soutiens le travail de Julia des deux mains, j'applaudis. Et voilà, j'espère qu'on va faire des grandes choses ensemble.
Oui, merci Pascal.
Moi, Céline, et ça fait à peu près 3 ans et demi que je travaille avec des artistes, entre Saint-Denis et là je travaille maintenant à Port-de-Bervilliers et donc ma pratique c'est celle d'ancrer en fait des pratiques à force de collaboration.
Ok, enchantée.
D'accord, donc là c'est à moi. tout d'abord merci Ariane et c'est vrai que quand tu m'as dit partir de soi, de son propre parcours et cheminement, je me suis sentie un peu partagée parce que c'est clair que la plupart des actions, si je n'ai fait aussi en solo toute seule, mais la plupart des actions et d'activités, je les fais aussi avec des personnes merveilleuses qui ne sont pas ici aujourd'hui avec moi et que je voudrais tout d'abord remercier, donc l'association Polychrome et l'atelier de recherche Jean Respace, qui dans les dernières années sont vraiment les personnes avec lesquelles j'ai mené beaucoup d'activités un peu en parallèle de ma thèse. Parce que disons que maintenant je suis en thèse sur les espaces genrés, les politiques urbaines genrées, mais c'est vrai que à côté, j'essaye toujours de porter une réflexion un peu plus personnelle et plus artistique, enfin, si possible. Donc, alors, l'objectif principal de cette intervention, pour moi, c'est un peu de vous exposer et de proposer un débat, une discussion avec vous autour de l'hybridation entre une perspective féministe, queer et intersectionnelle et une perspective, une dérive, la dérive, disons, qui est aussi un côté de recherche, un côté d'art et esthétique. Et c'est là parce que je travaille avec la dérive depuis beaucoup plus longtemps. Je voudrais passer un peu vite sur tout l'aspect, la partie de mes projets et ce qui s'est passé pour ensuite vous proposer une performance ludique, si vous voulez, collective, avec des outils, donc un fil d'Hélène et des cartons avec des mots-clés, pour essayer donc de faire un mapping physique avec nos corps, hein, pour spatialiser certains concepts qu'on abordera le long de discours, de ma discussion. Donc, voilà, partir de soi, comme j'ai dit déjà à la Monnaie, ce n'est pas une vérité autoréférentielle, mais c'est un principe de se situer dans un contexte qui est pour moi une pratique davantage féministe et pas intellectuelle, qui sert pour moi à partager avec vous, avec les personnes, un cheminement, qui dans mon cas c'est une errance, qui j'entends dans le double sens de erreur, et d'errer, donc marcher. Ok, je me suis formée à la profession d'architecte, je m'en suis éloignée pour suivre ensuite des expériences artistiques et performatives en Italie et après en France. Donc les études d'architecture, pourquoi je m'en suis éloignée? Alors c'est un système que j'ai ressenti très contraignant. Pourquoi faire des projets, concevoir des espaces, jouer avec les proportions, la beauté, etc. Pour qui? pourquoi en fait faire ça. Pour moi, c'est un problème déontologique qui est d'un métier strictement lié au pouvoir qui est en place à ce moment. Et pour moi, les images monumentales en fait qui communiquent tout au long de l'histoire sont la célébration de la grandeur de la société dominante. Voilà. Donc ça, c'était le problème principal que j'avais avec l'architecture. Et donc, je me suis intéressée donc à l'architecture des marges, à l'architecture, voilà, là, maintenant, les HLM, la charte d'Athènes et tout ce qui était un peu un discours moins dominant. Par contre, on peut parler de la charte d'Athènes et de tout le discours du mouvement moderne qui était quand même inscrit dans un discours un peu productiviste. C'était dans un moment d'explosion démographique, révolution industrielle. Donc, ça s'inscrivait quand même à l'intérieur d'un système capitaliste qui était en place. Et en plus, les architectes de la carte d'Athènes, à un moment, donc, faisaient d'un côté, les architectes en général, font d'un côté les meilleurs projets avec les plus beaux matériaux, etc., les villas pour les riches. Et donc, de l'autre côté, il y a les HLM pour les pauvres. Pratiquement, c'est comme ça. Donc, voilà, pour moi, ça posait problème. Et heureusement, j'ai eu le privilège, il faut le dire aussi, parce que pas tout le monde peut finir des études, s'est dédié à autre chose, de pouvoir essayer de trouver d'autres pistes, d'autres places, et ne pas du tout faire l'architecte. Voilà. Donc, je me demande s'il y a certains types d'architecture éphémères à la frontière, à la limite du système, non, qui peuvent essayer de bouger des lignes, comme par exemple les collectifs d'architecture, un discours d'autoproduction, de co-création, de co-conception. Est-ce que ça peut être une... des formes, disons, de subversion. Je ne sais pas, je me le demande, et je le demande aussi à vous. Enfin, je pense que ça, c'est pour moi déjà un peu un début de questionnement sur qu'est-ce qu'un peut être une architecture queer aussi, par exemple, parce que je la pense pas non plus seulement quelque chose qui est formel. Voilà, donc ça, c'est un premier questionnement. Et je voudrais donc après vous raconter très vite ce que j'ai fait après et toute la pratique de la dérive que j'ai intégrée dans mon parcours. Donc j'ai eu la chance après mon diplôme d'intégrer le groupe Stalker, qui est un groupe d'artistes architectes à Rome en 2013. Le livre Wallscape de Francesco Carelli, la marche comme pratique esthétique, c'est vraiment on saisit bien vraiment le manifeste, la rencontre de l'autre, de l'étranger, la rencontre des limites de la ville, des interstices. Et pour moi, ça pourrait être un processus queer, disons. Et donc la question un peu plus structurée que je voudrais vous proposer, c'est comment nous rapporter à une pratique queer de l'espace ? Comment définissons-nous, ou plutôt quelle est l'image qui nous vient à l'esprit quand on dit espace queer ? Donc, être queer d'un espace, en plus qu'être queer dans un espace. Donc, les deux choses qui, à mon sens, s'articulent et se complètent l'une l'autre. Donc voilà, alors de l'expérience des Roms, je voudrais citer seulement une de parmi les nombreuses actions faites, celle de la co-construction d'un jardin éphémère à Pietralata, c'est un quartier à nord-ouest des Roms. Et dans chaque approche, inspirée par la dérive situationniste, nous avons rencontré ce lieu par hasard, hein, ou par destin, ça dépend, parce que dans le film des Stalker de Tarkovsky, si vous le connaissez, ça part du destin. Et nous avons par la suite instauré une relation avec les habitants. Qui nous a permis d'instaurer un vrai chantier participatif, collaboratif, avec des journées de travail qui s'alternaient tout le jour à des soirées festives. Et c'était voilà, je vous montre un peu de photos sur comment on est arrivé dans ce lieu, qui au début était comme ça, hein, et c'est exactement la même image qu'on voit dans le film de Tarkovsky, La Zone. Et là, maintenant, c'était comme ça. Donc, on l'a transformé comme ça, voilà, ah, comme ça, avec tout un travail qui a été vraiment un travail de rencontre entre nous, qu'on venait par hasard dans ce lieu à travers la dérive urbaine, et les personnes qui habitaient. Et que c'était un bel mélange, parce que la beauté aussi de la périphérie romaine, c'est qu'elle mélange avec une indifférence bienveillante, je dirais, toutes les immigrés. Les étudiants, les travailleurs, etc. Donc, c'est vrai que dans ces contextes, je ne travaillais pas du tout encore le genre dans l'espace, mais c'est un peu pour moi la prise en compte d'une pratique d'apprentissage des lieux qui se fait avec les pieds, qui se fait avec les personnes, hein, en relation de rencontre, qui reste ouverte et sans jugement, absolument de rien. Après, petite finale un peu triste, c'est que, mais c'est une finale logique pour une société dans laquelle on est. Bah, ce parc, qui n'était pas légitime, bien sûr, a été détruit pour en faire des bâtiments. Ça, c'est le, voilà. Ce qu'on avait fait, c'était pendant une seule semaine, on avait fait un travail vraiment absolument énorme, mais beaucoup de luttes il y a eu. Hein, les habitants, ils s'en étaient appropriés et ils ont fait des luttes quand il y a eu les bâtisseurs qui sont venus avec leur chantier, mais voilà, ils n'ont rien pu faire. Donc cette zone-là, maintenant, c'est bâti. Voilà, donc ensuite je fais un travail plus intime, plus personnel, qui s'est nourri aussi de ces enseignements-là, dans lesquels j'interroge très lieu d'une ville de Terni, de la ville de Terni, avec des petites actions superficielles, je l'appelle comme ça, parce que j'essaye de travailler sur des lieux ignorés, des interstices urbains, sont très lieux vides de la ville, qui sont dans les centres-villes, en fait, et que sont des espaces oubliés ou ignorés, invisibilisés, non ? Et pourtant au cœur de la ville. Et ce qui m'intéresse, c'est explorer des activités, des alternatives qui ne soient pas non plus officielles ou officialisables ou normalisables. Ça m'intéresse aussi qu'elles peuvent rester un peu anarchiques, libres, et démontrer, par exemple, que même s'il y a une barrière, parce qu'il y a dans un de trois endroits, attendez, je vous le montre, dans un de trois endroits, il y a une barrière. Ah, ça passe vite. Ouais, là. Il y a une barrière entre un espace vide, de bétonné, dans lequel il y aurait un parking, mais personne n'y peut aller. Donc ça, c'est vraiment un contresens, si vous voulez. Mais c'est une bagarre entre administration et propriétaire. Et bon, ce qui m'intéressait, c'était montrer qu'on peut s'en foutre, on peut y travailler, on peut y jouer, on peut faire d'autres choses, non ? Et par contre, je l'ai fait aussi dans cet endroit-là, qui était un ancien endroit un peu abandonné, un parc dans lequel j'ai essayé de voir salut, il y a des gens qui arrivent. Et dans ce contexte-là, j'ai essayé d'explorer, voilà, comme dans les autres, des moments ludiques, disons, mais je suis restée très, très triste que l'administration, après, il y avait je vous l'avais montré tout à l'heure dans les photos, il y avait une maison d'une personne qu'il avait occupée de manière illégitime, c'était un drogué, qui habitait l'endroit depuis des années, et ils ont complètement effacé son endroit, en fait, sa maison. Donc, ça me posait problème, ça me posait un questionnement, parce que la légitimité de ces espaces et la revendication de l'existence de ces zones de marge, l'acceptation d'une dimension non normative de l'espace, qui, pour moi, entre autres, fait analogie avec le queer, c'est, pour moi, si on veut restituer aux espaces d'interstice toujours un rôle défini, une destination fonctionnelle ou une attribution légitime, est-ce que cela implique une violence envers une situation qui s'est créée, par exemple, spontanément dans le même espace ? Donc ça, c'était un peu le côté un peu triste de ces espaces qui sont toujours un peu délaissés. Et de l'autre côté, il faut aussi penser que ces critiques, ce qu'on fait par exemple maintenant à Paris, dans les occupations temporaires des friches, parce que là aussi, ce n'est pas du tout une question de réactiver pour rien en fait, simplement pour la population, mais c'est juste en attente qu'est après un système de spéculation du bâtiment vienne à faire son petit écoquartier ou un autre bâtiment. Donc ça aussi, ça me pose problème. Ok, donc ça c'était pour Terni. Après, je suis partie à Lille. Donc j'ai décidé de partir, d'intégrer l'école d'architecture de paysage de Lille. Et en cours d'esthétique. Et pendant ces temps, je me suis donné aussi le but de continuer à explorer à pied. Donc ça, c'est toute la ville de Lille. Hein, et moi, j'ai fait toute cette exploration à pied de la ville. Après, sauf quelques bouts qui étaient en métro, mais presque toutes, c'était à pied. Hein. Juste quelques fois, j'ai pris le métro, j'avoue. C'est là, c'était pour moi un travail sur des recherches sur la frontière et sur le basculement entre un dedans et un dehors, parce que c'était pour moi aussi la première fois que j'ai sorti de l'Italie. Donc, c'était un peu une réflexion sur les espaces de limite. Donc, j'avais proposé à une des portes de la ville, là où il y a les... Ça se voit très mal, mais là où il y a les gares, il y a une entrée, il y a ce parc qui était délaissé à ce moment, et donc j'avais proposé toute une sorte de cadre qui ensuite devenait, quand on passe avec la balançoire, devenait une seule cadre, alors qui était tout un jeu de perspective comme ça. Et après, à tourner au jour de nuit de l'architecture aussi, j'ai proposé d'autres balançoires avec des matériaux trouvés pendant les dérives, l'idée, c'était de dire que celle-ci, c'était une frontière, hein, comme le discours de bousculer toujours dans l'impossibilité de garder un équilibre statique dans les situations. Et c'est intéressant pour l'intérêt de ça, c'est que lorsque j'ai fait cette réflexion et que j'ai installé ces balançoires, je fréquentais toujours le cours d'esthétique et je m'intéressais un peu aux stéréotypes masculins et féminins depuis un moment, et l'enseignante du cours me dit que dans le livre Sexuality in Space, alors il y a toute une réflexion sur le fait que en étant des filles sur la balançoire, ça assume un côté aussi sexuel, sexué, par le fait que les filles souvent ont les jupes, et donc ça pose une sorte de zir, non, dans ce fait-là. Donc, c'était intéressant, cette image érotique qui ressortait. Hein, et du coup, justement, après ça, je me suis intéressée, j'ai lu les Sexuality in Space pour comprendre, hein, pour aller à fond de cette discussion qui, au début, c'était quelque chose qui restait très, très stéréotypé, et les premières réflexions, c'était un peu dans une impasse essentialiste, d'un féminin coincé dans son espace des beautés, douceur, ligne courbe, non, intérieur, care, full of care, attentionné, peuplé des femmes, et seulement de certains types de femmes, et de l'autre côté des hommes, donc l'espace de l'extérieur qui était carefree, non, donc sans attention, nonchalant, et peuplé de seulement des hommes. Donc c'était mythologie un peu stéréotypée, tu vois, que figée, qu'on peut voir très bien affichée dans Zahadid et Foster. Dans ces cas-là, les années 80 ont été très, très beaux pour ça, qui, voilà, nous donne un peu l'idée de cette impasse, de cette, des, dans laquelle l'architecture un peu reste figée, c'est resté figé, les caractères aussi d'esthétique restent là-dedans et n'en sortent pas, parce que justement on parle toujours dans des rapports d'esthétique, on parle des binômes. On parle de jour, de nuit, on parle de chaud, froid, on parle intérieur, extérieur. Donc, c'est comme si les jeux qu'on peut utiliser, les outils de la proportion, les outils de la conception aussi architecturale restent un peu toujours entre deux binômes et il faut travailler avec ces binômes. Et donc, féminin et masculin rentrent aussi dedans, dans un cadre un peu figé et avec leur structure très, très bien figée. Et voilà, donc c'était un peu... C'était un peu mes questionnements et c'est pourquoi je me suis décidée à faire une thèse sur l'architecture et le genre. Après, il y a beaucoup maintenant la littérature sur les espaces de l'intérieur, il y en a, les cuisines, les espaces queer, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de littérature. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la prise de place, donc le moment, aussi la revendication politique d'être à l'extérieur d'un espace. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis intéressée un peu aux espaces de l'extérieur. Et juste pour vous dire le côté théorique, le côté... un peu plus institutionnel que je porte dans ma recherche, c'est une cartographie de tous les espaces un peu genrés en Europe. Après, donc pour les hybridations avec la dérive, pourquoi j'ai décidé d'intégrer les deux choses? Parce que je travaille avec la dérive depuis beaucoup de temps et je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'appréhender aussi des réflexions genrées et queer avec cet outil. Donc, voilà, vous connaissez hein, Guy Debord, les situationnistes, etc. Mais c'est vrai que... Quand on, par exemple, la notion des dérives urbaines fut définie par les situationnistes en 5-6, désignée d'une manière de découvrir la ville par l'errance, okay. La volonté première de cette approche est de quitter la passivité avec laquelle on peut aborder dans nos itinéraires habituels les quartiers et les rues que nous empruntons. Alors ça me semblait intéressant de voir ça aussi... par rapport au genre et par rapport à comment nous, de manière habituelle, on persévère, on continue à performer les choses d'une certaine manière et on ne se pose pas le souci de comment nos corps traversent et habitent les espaces. Donc, j'ai proposé la première dérive en 2017 à L'Aquila. Lors d'une conférence qui a fait, disons, critique, polémique pour d'autres questions. Mais nous, on a proposé un workshop, une marche dans les ruines de L'Aquila. Vous savez, en 2008, c'est une ville en Italie qui a été touchée par un tremblement de terre énorme qui a détruit toute la ville. Et donc, la conférence s'appelait « What's new on queer studies ?» Donc, nous, on a proposé de faire une dérive queer. Justement parce qu'on était des architectes qui venaient de cette pratique et c'était notre première approche. Donc on a fait une marche et ce que je vais faire maintenant, c'est de vous lire mon compte-rendu de l'exploration parce que justement... Enfin, je pense que dans la dérive, le côté émotionnel et le côté personnel restent très, très importants. Ok, bon, je pars, je vais. Inspection, L'Aquila, 30 décembre 2016. Depuis les trains, avant d'arriver sur la gauche, je vois déjà les premières maisons sismiques avec des énormes piliers au sous-sol servant de parking. Nous montons la rue principale et à l'office des tourismes, nous avons des indications et les premiers récits sur les séismes. Il fait froid. Il y a du vent. La voie principale semble se forcer de donner une aire de normalité, alors que tout autour, la ville est un fantôme, que nous ne nous voyons pas encore, qui peut être perçu juste derrière les façades. Nous prenons les rues latérales et commençons à errer dans les rues désertes, peuplées uniquement par des corps urbains vides, où ont été greffés des échafaudages et des cages métalliques qui les tiennent fermement, qui les étreignent comme une étreinte des morts. Les portes de ce qui était autrefois des maisons sont ouvertes, pas toutes mais la plupart. Monter les escaliers entre les fleurs sèches et les toiles d'araignées, trouver des photographies encadrées et des lits encore défaits, des frissons. Au coin, il y a un magasin de lingerie fermé. Il n'y a plus d'intimité ici. Depuis la rue, il y a des perspectives sur des bâtiments tenus ensemble par ces échafaudages obscènes, obsessionnels, excessifs et infinis. Il n'y a pas d'espoir. Il vous coupe le souffle. Vous ne pouvez plus rester. Je voudrais fuir et prendre la route, là où il y a la vie. Les passages voûtés sont maintenus avec l'utilisation de ces échafaudages métalliques partout, tubes et joints innocents, placés à une fréquence effrayante, tous les 2 cm. Il y en a une à une grandeur répétitive et obsessionnelle. Ils sont là pour se rappeler à chaque putain de pas qu'est-ce qui s'est passé. Des verres, de la nourriture, toujours dans les placards. 10 ans. Un silence silencieux et assourdissant, une ville abandonnée, des fantômes et banalement tout cela est choquant. La ville a été violée, oui d'abord par les tremblements de terre, mais aussi par l'administration. Elle est maintenant défaite, confuse, abandonnée, éparpillée, dispersée parmi des nombreuses colonies de peuplement nouvelles, petites et déplacées du projet CASE, où ils vivent des personnes qui vivaient auparavant plus proches. Ils ont perdu l'espace et le temps de leur passé. C'est un corps urbain blessé, mutilé, contraint de changer, de survivre. Comment vont-ils faire? Est-ce que c'est possible penser à une survie en transformation? Est-ce que c'est possible une approche queer avec son potentiel transgressif qui aide la ville à se réinventer, une transville? Survie, structure, superstructure, construction, déconstruction. Masquage, maquillage. Alors, bien qu'il existe une différence substantielle dans les principes selon lesquels il est possible de décrire ce qui s'est passé à L'Aquila, qui c'est une construction, destruction et reconstruction, avec ce qui se passe dans la redétermination du corps queer, qui c'est une construction, déconstruction, reconstruction, peut-être c'est possible de se concentrer sur les blessures du corps urbain de la ville comme point de départ pour une réflexion sur la crise qu'elle entraîne et de la manière dont cette crise est vécue, de la manière dans laquelle après on peut se redéfinir et on peut essayer de saisir des opportunités offertes par cette nouvelle tension. Alors, dans la ville de L'Aquila, donc nous, on a proposé ça aux participants au colloque, auxquels on a montré les ruines. C'était notamment comme toute personne qui vient au colloque ne connaît au colloque comme ça, un peu au congrès international, ne connaissent pas les endroits où ils vont. Donc, ce qu'on a fait, on a pris contact avec un groupe qui d'ailleurs c'était un groupe LGBT qui avait au moment de la reconstruction essayé de faire des champs alternatifs à ceux proposés par l'administration. Alors à savoir que ces tremblements, cette cataclysme en fait a été vraiment utilisé de la manière la plus horrible par l'administration avec la spéculation. C'était l'époque Berlusconi, donc il y a eu vraiment pas mal de spéculations là-dessus sur la manière dans laquelle le centre-ville a été laissé comme ça, et tous les échafaudages que vous voyez que vous avez vus, ils sont vraiment de trop. Enfin, il y en a qui ne servent à rien. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui était autour de la fontaine. Mais voilà. Ça, pour le coup, c'est vraiment que j'ai des échafaudages en plus et je ne sais pas où les mettre. Pratiquement. Mais bon. Donc les exploitations du terrain autour, c'était aussi quelque chose de très problématique par rapport au marché du capitalisme. Mais voilà, donc pour nous, c'était un peu l'occasion de montrer une alternative qui avait été portée par ce groupe aux personnes qui sont venues à la conférence. Ensuite, en octobre, toujours en 2017, j'ai proposé avec à Polychrome, et donc après on les a fait avec Polychrome, des dérives, réunions pour organiser après la dérive du troisième jour de la conférence. La conférence était Espace genré sexué queer, qui en a organisé à l'école de Paris-Lavillette. Et donc il y a deux dérives qui étaient des dérives de préparation, et il y a eu après ensuite la dérive du troisième jour de la conférence. Je vais là aussi, si ça vous va, vous raconter à nouveau mon cadre de mes souvenirs. Donc, samedi 23, 12h, place Gambetta. Nous nous retrouvons dans une des places du projet Réinventons nos places de la mairie de Paris. À savoir, dans les projets pour l'attribution du renouvellement au ruban de ces places, il y avait comme critère l'éligibilité, l'attention aux questions des genres en ville. Je proposais une réunion de marché, une dérive sans but pour stimuler nos cerveaux au rythme de nos pieds, nos corps et nos envies. Samedi midi, nous a porté vers une vide grenier à place de la Réunion où on a trouvé à manger, mais surtout un téléphone à forme d'une bouche et des leggings psychédéliques. Beaucoup de soleil, des rails visibles et invisibles dans la forêt urbaine faite de rues, de ponts et des petits jardins de quartier qui nous ont donné envie de créer un toboggan et de trouver l'accès aux rails et marcher dans l'obscurité. Et dans une belle journée ensoleillée de fin septembre, nous a paru tout d'un coup parfaitement logique et désirable. Mais nous n'avons pas trouvé les rails. Par contre, on a trouvé un love hotel dans un squat dessiné en surface. Alors je suis partie à l'attaque avec ma proposition. J'avoue, je la cultive depuis un moment, de créer des hôtels comme ça dans la ville. Après, j'ai découvert qu'ils existent. Mais au prix accessible, voire gratuit, espace safe pour les rencontres aléatoires. Je me demande pourquoi nous nous occupons, nous les archis, les urbanistes, de penser aux aménagements publics en n'étant jamais en compte le fait qu'on puisse aussi faire l'amour dans ces endroits. Pisser, c'est essentiel, et faire l'amour, non. Et à partir de là, comment parler des genres dans les espaces publics? Comment pouvons-nous réfléchir sur le rapport entre la ville et les genres d'un point de vue lié aux contraintes physiques réelles que la ville et son aménagement imposent à nos corps? Donc, on remarque deux discours. D'un côté, les aménagements, les politiques urbaines qui prennent en compte certains types de personnes et maintenant prennent en compte les genres sous forme des femmes dans une approche binaire. Et de l'autre côté, les personnes, tout être humain qui vit et se déplace dans la ville et qui, avec sa présence ou absence, fait la ville. Les espaces sont accueillants parce qu'ils sont bien dessinés ou parce qu'ils sont peuplés par certains types de personnes. Pourquoi certains comportements sont acceptés et d'autres ne le sont pas? En quelle mesure nous acceptons de nous habiller en jean et t-shirt plutôt qu'en pyjama dans l'espace public? On a peur de marcher seul la nuit? Quelles sont les stratégies de gestion du risque que nous adoptons quand on a peur? Et pourquoi on a peur? Voilà, donc ça c'était la première. Après, on en a fait une autre dans laquelle on a plutôt parlé. C'était très intéressant, mais j'ai pas de récit sur ça. Et donc il y a la marche de la journée du colloque. Ces samedi matin-là, je me suis réveillée chaque heure avec la plus affreuse gueule de bois de ma vie, parce que le soir avant c'était la fin de la conférence, c'était l'organisation de ma première conférence, et du coup je m'étais bourré la gueule. Donc heureusement il y avait un de mes collègues qui s'est pris soin de moi avec une espèce de boisson noire que j'avais allée sans rien demander plier sur le lit d'un autre colloque, parce que dans ma chambre il y avait des intervenants du colloque. Bon, samedi matin, je me suis enfin réveillée vers 14h pour me présenter plus ou moins debout au rendez-vous à Place du Panthéon. La dérive ou démarche queer urbaine pensée comme étape finale du colloque espace genré sexué queer commençait, pour moi, qui étais parmi les organisateurs, dans la plus honteuse des modalités. Donc, je croiserai Larissa, une fille de Polychrome, dans le métro et on arrivera ensemble avec un fruit qu'on a trouvé par terre, vert, de la taille d'une grenade, mais avec des poils et la texture très proche de la matière grise du cerveau. Un cerveau vert qui a fini pour devenir la mascotte de la journée. Néanmoins, sous la pluie et avec un esprit encore en construction et pas du tout apte à montrer des choses, à guider les gens qui étaient venus nous voir Nous sommes partis dans l'idée de faire notre dérive. Il y avait la pluie, les parapluies nous distanciaient un peu les unes des autres, on marchait très lentement. Personnellement, j'ai essayé de me libérer de toute la culpabilité que j'ai sentie. Je me suis un peu forcée à jouer avec la ville, non seulement dans ma tête, mais avec des actions, en leur donnant une nuance bizarre, en faisant un peu de spectacle, en donnant importance au ridicule. Il a été à la fois une violence et une libération. J'ai improvisé des mouvements, des usages inédits comme s'allonger sur un banc qui semblait une énorme pièce Lego. Certaines choses, nous les avons faites ensemble et quand on l'a fait, j'avais l'impression qu'on dansait. Mais d'ailleurs, quand on s'est arrêté dans les jardins de la drague, j'ai lu « Paris est une fête ». Qui est du livre 3 milliards des pervers. Et Frédéric nous a cristallisé un bon moment du passé historique avec ses souvenirs. Je vous ai vu partir. Vous étiez en train de danser autour de l'arbre avec ses liquides visqueux sur les mains. Et ensuite, on a trouvé une clé. Ces moments de délassement dans les petits jardins, je l'ai assimilé à la gêne et à l'attente de ce qu'on ne connaît pas et que finalement nous ne savons pas s'il nous a plu ou pas. Mais finalement, on est arrivé à place de la Bastille. Et alors là, quand on a commencé à voir les panneaux avec les cartes et quand on est arrivé à celle genrée, l'isolement a pris la place de la déception. Nous avons pu écrire sur les panneaux sans être dérangés, en laissant une trace de toute notre perplexité sur l'usage genré de l'espace public. Les roses pour les femmes, l'azur pour les hommes, la place genrée avec les poussettes et les skates pour les garçons. Un triomphe des stéréotypes, en somme, que nous avons brutalement critiqués avec un légitime acte de vandalisme. Bon, toute la question après reste ouverte sur ce qui est légitime ou pas et des libertés qu'on assume dans l'espace public visant à critiquer l'ordre établi, la norme et la normalité. Voilà, donc c'était ça. Activité des chonfing, on s'en fout. C'était trop bien. Voilà, là c'est moi qui... Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais quand même le lire à haute voix, c'est quand même quelque chose. Ensuite, Osement Femme Fatale, et on est presque à la troisième et l'avant-dernière. Alors ça, avec ma grande satisfaction, en fait, c'était Larissa qui, après, s'est appropriée de cet discours de dérive queer et a proposé, elle, en janvier 2018, une dérive dans les lieux un peu du pouvoir de la ville, dans le centre-ville. On est allé à Place Vendôme et l'idée, c'était celle de... mettre la vernis aux endroits qu'on trouvait dans la ville. Donc, c'était une action, micro-action, si vous voulez, hein, sur les surfaces, qui nous a pris de l'énergie et du soin. C'était un travail assez attentif et minutieux. On s'y est attaché avec précision, par exemple, en donnant des trucs comme ça, ou alors comme ça, de la French manicure sur... Les trucs ou des vagins, voilà, des décorations sur les poubelles, etc. Et ce qui est toujours beau dans les dérives, etc., c'est que on regarde la vie d'une manière un peu différente, donc on cherche aussi des trucs qu'on n'aurait jamais peut-être essayé de voir si on avait d'autres choses à faire. Voilà, donc on arrive à Place Vendôme et là aussi on fait une belle coloration du maître. Et c'est là qu'ensuite on va vers les Tuileries, il y a un grand lion, et on lui met de la vernis partout, etc. Et c'est là que je voudrais montrer la vidéo parce qu'elle donne vraiment l'idée de. Ça dure très. C'est très court, et ça donne vraiment l'idée de. Le soin de l'esprit dans lequel on était en parlant de ça, etc. Donc je vais vous le montrer. Je sors d'ici. Je suis OK. Non. Je l'ai sur le mien. Bon, ça se... Voilà. Donc c'était un super moment et le ce dont on parlait, c'était très très sérieux en plus. Je sais pas, c'était sur le contrôle de l'espace à travers la lumière, etc. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, mais bon. Donc du coup voilà. Après, pour conclure, la dernière dérive, c'était en Inter l'année dernière lors du congrès CIRF, hein, c'était le congrès international de recherche féministe francophone, et nous avons alors là aussi c'est un contexte institutionnel. Nous avons eu des problèmes aussi liés au rapport de domination académique, parce que par exemple, pendant qu'on était là en train d'expliquer aux gens qui étaient venus nous voir la dérive, il y avait des personnes qui pourtant avaient été intervenues dans notre groupe, hein, c'était avec et grâce à l'atelier Genre Espace qu'on a pu faire ça. Et elles ne s'arrêtaient pas de parler. Donc après qu'elles avaient parlé, elle s'en foutait du fait, en fait, que nous, on était en train de faire autre chose, etc. Donc, on l'a trouvé vraiment un peu violent par rapport à comment on peut se sentir impliqué dans une démarche des recherches sur des espaces genrés et pourtant ne pas faire attention aux rapports de domination qui peuvent s'instaurer entre profs, enseignants avec un statut et nous qu'on était là en train de faire notre petit truc. Ce que j'avais proposé dans cette dérive, c'était de se questionner comment les corps habitent l'espace universitaire, qui est un espace matériel et symbolique, hiérarchiquement construit, hein. Et c'est qu'on peut trouver, c'est une organisation, un mouvement de personnes entre les couloirs, les salles des cours, dans lesquelles se passe la production de savoir et les rapports de domination. À savoir, c'était important pour moi de le faire parce que, comme à L'Aquila, le problème c'est qu'il s'agit des conférences qui devraient être des conférences qui questionnent un peu des choses basilaires aussi, des rapports de domination, enfin, féministes et queer. Je pense que tous les deux ont bien à l'intérieur ça. Et pourtant, aucune des deux s'est occupée du lieu dans lequel on était. À L'Aquila, il y avait un problème de spéculation énorme et personne n'a pensé, enfin c'est nous qui avons porté les participants au congrès à voir L'Aquila, personne de l'organisation n'avait pensé à ça. Et dans le congrès du surf, quand même, malgré tout, c'était l'année en 2018 dans laquelle il y a eu des grosses émeutes dans les universités, des grandes occupations. L'occupation de Nanterre, c'est celle qui a duré un peu plus longtemps, dans laquelle il y a eu aussi des problèmes avec la police et tout. Et qui a eu aussi son côté queer et son côté des questionnements, des espaces safe, etc. Et personne a pensé à ça. Et ça me pose problème. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de apporter les personnes à faire des explorations de ces espaces avec une personne qui était présente à l'occupation et qui nous a un peu raconté ce qui s'était passé. Voilà, donc ça c'était un peu la fin, parce qu'après je suis rentrée dans la phase d'écriture de la thèse qui m'a un peu éloignée de toutes les pratiques alternatives et qui m'a ramenée aux bibliothèques. Voilà. Donc pour la partie finale, donc je vous proposais, comme je vous disais, d'abord ce mapping physique avec le fil et les cartons, et qui dans ma tête c'est assez libre, mais je vous propose de se mettre sur deux lignes d'abord pour un peu simuler la binarité, la dichotomie, hein, du monde actuel. Et donc après, voir comment, avec les différentes tensions entre les mots et les concepts, on peut bouger et créer une spatialisation différente avec le fil. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.
Avant de se lancer, j'avais plusieurs réactions par rapport à ce que tu disais. La première, en fait, après tu en as reparlé, c'est tu parlais des formes de, enfin c'était un questionnement que tu posais sur la question des formes de subversion liées à l'alternative justement de cette architecture transitoire ou de pas transitoire justement, mais de d'autoconstruction, etc. Et oui, moi c'est des choses qui aussi me questionnent, surtout quand tu vois que ces formes pensées donc comme alternatives et de subversion sont aujourd'hui réutilisées et réintégrées dans le système capitaliste, et qu'en fin de compte, ces formes-là, maintenant, sont dans des connotations en fait, par exemple, l'urbanisme incrémental, l'autoconstruction, qui sont en fait des choses qui existent depuis la nuit des temps, quoi, et qui aujourd'hui arrivent comme des concepts nouveaux ou de nouvelles manières de faire. Et qui en fait sont réintégrés dans un système de production capitaliste, et qui renvoie à une esthétique en fait. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est quand on parle d'esthétique et de rapport dichotomique dans la question de la production de l'espace, etc. Et de voir comment aujourd'hui l'esthétique de la production capitaliste en fait reprend en fait toujours ces rapports-là. Moi, tout de suite, à qui je pense, qui est dans une esthétique comme ça, à qui on s'est bien fait avoir ici, donc je le précise à chaque fois, c'est Yes We Camp, qui ont toujours une esthétique donc justement comme ça, de réutilisation, et qui en même temps sont dans une incapacité d'être dans des contextes tels qu'Aubervilliers, parce qu'ils ont... De part parce que les quartiers populaires, etc. et tout. Et ça a été très compliqué pour eux, en fait, de créer un réel. Parce que c'est pas juste construire des choses, c'est aussi créer du lien. Enfin, voilà. Et ça a été très, très compliqué pour eux, par exemple, d'être dans un contexte tel qu'Aubervilliers, alors que, bien sûr, dans le 14e, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est aussi des choses un peu comme ça qui, moi, me pose question, et qui sont en fait en lien aussi avec l'urbanisme transitoire, etc. et tout, parce que c'est cette esthétique-là qui est prise dans le cadre de l'urbanisme transitoire aussi, pour après des gros investissements, comme tu disais. Ça, c'est une première. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Je t'en prie.
Mais du coup, moi, je travaille dans un de ces espaces-là qui appartiennent à la SNCF, premier ou deuxième propriétaire foncier en France, je crois, et donc qui mène comme ça toute cette activité superbe et communicante de pseudo-valeurs, enfin bref, et qui sont aussi pensées vis-à-vis, enfin, de façon très généraliste, comme tiers-lieu. Enfin, c'est un mot que je ne peux plus entendre, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'il est utilisé ce mot-là des deux côtés, par en fait facilité de vraiment pas se questionner sur justement le rapport de chacun de ces lieux à l'espace où ils s'inscrivent. Et donc je vois en tout cas donc c'est la station Gare des Mines qui est donc habitée par le collectif MU depuis maintenant 3 ans, avec un bail qui a été renouvelé tous les 6 mois, donc une précarité et une fatigue je pense qui atteint des sommets quoi au bout d'un moment. Et puis là on a gagné 3 ans. Donc on arrive à un moment où une forme de temporalité s'installe sur la durée, donc qui est plus de l'ordre de l'institution. Si on pense l'institution comme expérience qui dure, on est dans une institution ici. Nous, on est un peu malmené par des questions de temporalité et d'inscription d'une action et tout ça. Et donc toutes les questions là qui sont posées et que tu poses, c'est-à-dire est-ce qu'on est les idiots du capitalisme en fait en habitant ces espaces-là, ou au contraire est-ce qu'on utilise un espace et qu'on ne le laisse pas être récupéré par Yes We Camp par exemple, parce que visiblement nous on était pour les 3 ans à venir pas dans les petits papiers de la mairie. On ne travaille pas avec vous, on nous a dit. Maintenant on travaille avec eux visiblement. C'est encore à définir la façon de le faire évidemment. D'où l'intérêt de se poser la question de l'interstitiel, etc., et de continuer à pas occuper, mais habiter ces espaces. Donc voilà, je voulais juste dire que ça, c'est vraiment ces questions-là de comment on tisse des liens justement sur la durée, comment on ouvre nos espaces, comment est-ce qu'ils peuvent être le plus poreux. Peut-être c'est ça l'espace queer, c'est celui où la distinction du dedans et du dehors, elle s'efface. Comment est-ce qu'on applique ça avec à peu près toutes les formes de vie qui ont été abordées ici, c'est-à-dire des personnes en situation d'exil, aux personnes droguées, junkies. Et plein d'autres personnes qui sont à Porte de Bervilliers vraiment là. Donc on cherche des stratégies, on en pratique beaucoup et on ne met pas forcément de la lumière dessus parce que là où la lumière est, peut-être on ne peut pas agir aussi librement qu'on le veut. Voilà.
Je veux bien réagir sur l'ikéisation de l'espace public. Puisque nous, on l'a vraiment vécu en intégrant effectivement le collectif des Monumentales. Donc on a joué le jeu, puisque en tant que Genreville, on a été appelé pour ce petit alinéa rajouté au dernier moment, retiré plusieurs fois, et puis donc ça a été un vrai combat. Mais d'introduire la question genrée dans l'espace, c'était... Donc nous, on s'est centré là-dessus, mais on a été spectatrice et des enjeux de pouvoir dont tu parles, Julia. Déjà entre les mairies des arrondissements, et notamment on a eu le lot Panthéon Madeleine, pour ça qu'on s'appelait les Monumentales. Mais on a eu quand même deux places. Où effectivement personne dans les municipalités n'avait envie de voir arriver du bois brut, un chantier sur place. Donc on a quand même, même si ça a été dans la douleur vis-à-vis des élus, bousculé des choses. Alors effectivement, à toute chose, il y a toujours un revers de médaille. Effectivement, question participation, on peut dire que dans le cinquième, c'était juste pas possible, quoi. Les gens, on avait un conteneur ouvert avec des heures d'ouverture et l'accueil du public. On a essayé de faire des ateliers, on a essayé de faire plein de choses. Mais on a vu surtout des gens arriver pour critiquer le projet. Donc c'est un peu à double tranchant. Il faut s'en méfier. Je pense que surtout, il faut avoir un travail réflexif pour savoir jusqu'où on met la main. Et c'est vrai que nous, à Genreville, venant du collectif de la Barbe, on dit toujours aussi qu'on mord la main qui nous nourrit. C'est un peu paradoxal, mais pour faire avancer les choses, il faut aussi parfois accepter de rentrer dans le système. Et je reprends aussi une phrase que j'aime bien de comment elle s'appelle, de la grande chanteuse. Bon, son nom m'échappe, c'est pas bien grave. Mais elle dit qu'il faut être la bonne pomme qui va effectivement contaminer les autres. Donc c'est jamais simple.
J'avais une deuxième réaction. J'ai beaucoup aimé les Love Hotel. Tout de suite, pour moi, ça me fait tout de suite écho. Ouais, je suis comme toi. Pourquoi on pourrait pas faire l'amour, tu vois? Enfin, c'est ça m'a tout de suite. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, j'ai lu ce bouquin, donc qui est mon bouquin de chevet. Donc, il est même pas dans la bibliothèque tellement je suis jalousement gardée. C'est un bouquin de Matthew Gandhi qui s'appelle Écologie queer. Et en fait, c'est assez génial ce qu'il dit dans ce bouquin parce qu'il prend l'exemple en fait d'un cimetière à Londres où le cimetière est abandonné depuis des années et donc du coup t'as la végétation qui pousse et qui pousse et qui pousse et c'est devenu carrément une forêt et c'est devenu un espace où les gens se retrouvent pour faire l'amour parce que tu peux t'y cacher quoi et j'ai trouvé ça terriblement poétique et du coup et aussi parce que c'est un espace où tu es caché et donc du coup tu n'es pas dans des rapports de hiérarchisation, de quadrillage que peut avoir la violence des espaces publics, mais aussi des espaces commerciaux, etc. et tout, et donc des fois la difficulté de d'aimer en fait tout simplement en espace du dehors quoi. Et donc d'autant plus ça m'a d'autant plus intéressée parce que que voilà, que la nature soit, enfin la nature, bon, c'est un gros concept, mais je veux dire qu'en tout cas que la végétation, que les plantes soient nos alliés, en tout cas pour pouvoir se faire des bisous quoi. Il y avait ça, et il y avait aussi autre chose, et là c'est plutôt mon sujet qui m'intéresse depuis maintenant, en tout cas depuis que je suis à la Semeuse, c'est la question du retour de la faune dans les villes. Et en fait, et c'est là où j'ai eu un truc dans ma tête, c'est schlac, en fait, j'ai compris. C'est que la disparition, parce que je suis assez fière de dire que j'ai des moineaux dans le jardin, alors qu'il n'y en avait plus en Île-de-France, mais en fait c'est parce que il suffit de regarder les formes de la coupe des arbres dans les espaces publics, dans les parcs, dans les avenues, c'est des carrés ou des ronds. Comment tu veux qu'un oiseau se reproduise dans un carré ou un rond, tu vois? Et en fait c'est ça qui est assez marrant, c'est quand tu t'abordes en fait ces questions là même humaines, de la question de faire l'amour dans l'espace public, de la question de la reproduction en fait de la faune. Et en fait c'est exactement les mêmes principes, on perd en Île-de-France, par exemple, il y a eu la disparition, soi-disant, de certaines espèces. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus se reproduire, elles ne peuvent plus se cacher pour copuler. Et donc, du coup, si on fait une association, enfin pas une association, on essaye de créer des croisements entre la question des théories queer et de l'écologie urbaine, il y a vraiment, des axes de réflexion à tirer sur ces questions-là, et de dire comment est-ce qu'on peut justement repenser nos espaces, et qu'est-ce qu'un espace queer aujourd'hui à partir justement de l'aspect de la sexualité, mais je veux dire du sexe en lui-même, ou et de la reproduction, on va dire, par exemple, de la faune, quoi. Du coup, ça me faisait écho à ça.
C'est très intéressant, les liaisons avec l'écologie, de tout ce qui est, à mon avis, queer et féministe. Je pense qu'il y a vraiment un lien à faire là-dessus. Pour justement, l'autre jour, je suis allée à la présentation du livre Reclaim de... je me rappelle plus. Emily H, oui. Et justement, la réflexion de tout ce qui, finalement, était un peu maltraité par le système capitaliste, non ? Exploité et seulement utilisé jusqu'à à sa mort, en fait. Et donc, je pense qu'il y a un vrai lien à faire là-dessus qui puis sortir enfin de cette malédiction du essentialisme qui souvent est lié au discours d'écoféminisme, non, parce qu'on pense souvent quand on parle de écoféminisme, mais c'est essentialiste, etc. Non, il y a un vrai enjeu vraiment politique et vraiment anticapitaliste là-dessus, et justement en queer, je suis contente de la référence que tu nous as donnée. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre.
J'aimerais bien entendre ta définition de ce que c'est queer, pour m'éclairer un petit peu sur justement qu'est-ce que ça peut être une architecture queer. Parce que du coup, la question reste un peu en suspens pour le moment, j'ai l'impression. Et voilà, qu'est-ce que c'est pour toi queer, et comment tu entends ça, comment tu comprends ça?
C'est une énorme question. Je pense que comme genre, comme la définition de genre, je pense que ce sont deux mots qui n'ont pas une définition linéaire. Parce que ça dépend des endroits, ça dépend des consciences, ça dépend des vécus, justement des situations dans lesquelles on se trouve. Ce qui m'intéresse avec les mots, c'est toutes les analogies et les liaisons qu'on peut faire, et les outils des résistances qu'on peut trouver à l'intérieur dans certains groupes de signification, et qui peut nourrir peut-être un autre domaine, des autres aspects. Parce que par exemple, déjà queer, si on pense à la théorie ou au mouvement Ce sont deux choses différentes, les deux. Et c'est vrai que c'est plutôt lié à, tout au moins au départ, mais encore beaucoup aujourd'hui, à, aux aspects liés au vécu LGBTIQ, etc. Et donc, justement, l'architecture, elle se positionne. Je me demande justement comment elle se positionne vis-à-vis de ça, mais c'est vrai aussi qu'elle est, de toute manière, vu qu'elle est dominante, elle a toujours, disons, englobé une vision hétéronormative, de toute manière, de la société. Donc les deux choses, à mon avis, peuvent dialoguer. Mais je sais, j'ai pas une réponse non plus à qu'est-ce qu'est une architecture queer, parce que si alors il y a des architectures queer, ou définies queer. Hein, après, c'est toute une question de définition et de ce que aussi les architectes définissent comme queer. Par exemple, un appartement défini queer parce que les formes, elles coupent les espaces d'une manière alternative aux traditions. Enfin, ça aussi, ça me pose un peu des soucis. Je le trouve un peu limité comme type de définition. Mais voilà, c'est plus des alliances que je pense que puissent se faire entre mots et définitions plutôt que de définir non plus les choses d'une manière trop claire, honnête. Je suis un peu, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai.
À chaque fois qu'on dénomme, parce qu'on veut sortir de cette bicatégorisation, effectivement, on en crée une troisième, puis on en crée une quatrième et une cinquième. Enfin, les Inuits ont 5 genres, je pense qu'il y a d'autres ethnies qui en ont aussi beaucoup. Donc peut-être pas continuer sur cette voie à chaque fois de venir rajouter un cadre, mais simplement penser les choses en desserrant les choses. Et sortir de la binarité, c'est déjà desserrer, faire qu'effectivement, il y a des gens qui sont entre le féminin et le masculin, qui le sont vraiment, physiquement, biologiquement. Il y en a qui le sont de la naissance ou par opération. Il y en a qui le sont par un vécu temporaire. Aller le soir en grande folle ou en drag king à une soirée, déjà. Donc, c'est permettre ça. Et ça, c'est de l'ordre du sensible. Donc, ça n'a pas, effectivement, à être, à mon avis, dénommé. Mais par contre, si on revient à cette normalisation qu'on fait quand on crée des espaces, parce qu'on est bien obligé de les faire pour toutes et toutes, ça, c'est quand même dans la commande, c'est déjà de prendre en compte qu'il y a des différences et qu'on n'est pas en train de parler que des femmes, des mamans, des vieilles avec des cannes ou avec des chaises roulantes, et puis des hommes qui ont droit de citer, droit de siffler, droit de juger, droit de se poser au milieu du trottoir, et nous on descend pour passer. C'est déjà un grand pas d'ouvrir vers effectivement la pluralité des identités.
Je pense que c'est très clair. Moi je trouve très non, cette idée que justement c'est la largeur des possibilités d'interroger ce qui par contre est défini comme des binarités nettes. Et c'est justement ça qui est un instrument de connaissance, je trouve, avant d'arriver au projet, à la définition. Et aussi, je trouve intéressant, là, donc, tu peux interroger les projets et ensuite comment l'espace et l'architecture est vécu. Et c'est là que la dérive, comme toute autre manière d'interroger la binarité, est en soi aussi un moment de participer à l'espace, à la manière de le vivre. Ça, c'est pas clair. C'est pas trop clair, mais le moment où on à travers une dérive, par exemple, on participe de l'espace, on les met en discussion, on les met en discussion déjà. Donc là, on est déjà dans un moment de sortie des idées figées qui sont peut-être intégrées dans les projets initialement, mais ensuite les met en discussion. Bon, ok. Donc, voilà.
Je voudrais aussi rajouter une chose qui à laquelle j'ai pensé, parce qu'il y a aussi un côté très intéressant. Par exemple, grâce à l'atelier Genre Espace, dans lequel, avec plusieurs étudiants comme moi, on s'interroge depuis 2016 justement sur ces questions. Moi, je viens des formations comme architecte. Il y a une très grande différence de la manière de voir l'espace des personnes, par exemple, qui viennent des sociologies ou qui viennent d'anthropologie, et la manière dans laquelle ils voient aussi l'espace queer ou les normes, la différence, c'est beaucoup plus lié à l'observation de ce que font les personnes, en fait, des groupes. Ça, pour moi, c'est très intéressant et très important. Je suis de près toutes les recherches sur les masculinités en ville, sur les groupes, justement, queer ou autres qui font la ville aussi et qui performent la ville. Et donc, pour moi, après, il s'est créé des liens du fait que, d'un côté, les personnes font la ville, mais de l'autre côté aussi, la ville, elle fait les personnes d'une certaine manière, non ? Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action après, c'est comment activer quelque chose qui soit pas normative ou pas normée ou qui laisse libre d'être aux personnes queer comme aussi aux personnes hétérocis, malgré tout, de toute manière. Si on reste dans un discours de conflit positif, de ne pas se faire la guerre, non ? Donc, pour moi, le discours de la dérive du début, qui est le fait de la rencontre sans jugement, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà.
Je rebondis sur ce que tu dis. Donc, la ville fait les personnes. Ça me fait vraiment écho et je trouve ça hyper. En fait, la preuve. J'avais cette sensation, j'ai toujours eu cette sensation de la question de l'influence de nos déplacements, et puis on le voit maintenant dans le design carrément, donc c'est, maintenant on s'en cache plus dans le design des objets dans l'espace public, c'est que bon voilà, on administre du capital constamment qui se déplace, qui doit être tout le temps en mouvement, qui va dans un restaurant ou dans une boutique ou dans un truc, etc. Et donc cette continuité, donc l'urbain est construit pour ça aussi. Et en fait, la première fois que je suis allée à Notre-Dame-des-Landes, en fait, ça m'a fait vraiment un choc. Sensible en fait de la question des déplacements. Bon, bien sûr, t'es en pleine campagne, donc forcément. Mais je veux dire comment les personnes en fait qui n'étaient pas architectes, pas enfin voilà, construisaient leur propre espace de vie. Et donc du coup, tu vois des trucs, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire des constructions qui partent vraiment de sensibilité, d'essais, de briques et de brocs, mais en même temps des matières différentes. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une maison qui était faite d'argile, une partie, puis après c'était des vitres, et puis après c'était des trucs de la caille, enfin je sais pas, il avait récupéré de la tôle, quoi. Donc du coup, il y avait vraiment, même en termes de matière, des choses différentes, donc le rapport sensible totalement changé. Et donc du coup, c'est comme si c'était pour moi en fait, par rapport à ce, même si c'est pas de la ville, c'est pas de l'urbain, c'est un peu ce rapport inversé où quand on commence à construire notre propre espace de vie, comment le sensible revient et comment on redonne de la, enfin on n'est plus des comment dire des locataires, enfin on n'est plus dans un truc où on habite un, et c'est vraiment pas évident parce que pour rebondir sur ce que tu disais sur oui la pomme contamine les autres, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ah, ben voilà, Patty Smith. Ah oui, il y a une vraie question là-dedans, et moi je me pose, mais c'est vraiment très personnel, c'est une question que je pose de manière ouverte par rapport à mon travail que je fais quotidiennement, c'est que la pomme contamine les autres, mais comment ne pas non plus se faire contaminer nous ? Et moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est que, en fait, soit on s'épuise à être dans des rapports de... Je rebondis par rapport aussi à ce que tu disais, donc cette violence constante, qui est en fait une vraie précarité, quoi. Il faut se le dire, souvent, on est dans des rapports très précaires quand on est dans des travaux aussi comme ça, qui est un épuisement, psychologique, physique, enfin des fois. Et puis bon, ça c'est une chose, donc savoir créer un équilibre avec ça pour se protéger et tout. Et puis en même temps, cette violence donc administrative qui est dès qu'on essaye de bouger certaines lignes, etc. et tout, tout de suite on peut se retrouver devant des non-sens ou devant des vrais rapports de pouvoir administratifs par rapport à ce que tu disais, et que c'est toujours un... Enfin, voilà, c'est toujours une sorte de jeu d'équilibre à tenir avec l'administration, avec en général ceux qui sont à ta hiérarchie. Si t'es salarié, et en même temps les gens qui habitent les territoires, parce que c'est pas toujours évident, quoi. Donc c'est vraiment des rapports aussi, toujours trouver des croisements. Donc bon, c'est un questionnement que j'ouvre comme ça, mais qui part vraiment de sensible et de moi-même aussi, des questions que je me dis, comment faire dans un contexte comme ça, comment avancer, comment proposer. Je sais pas. Puis bon.
Sur la question du féminisme et la question queer, donc. Par définition aussi, parce que c'est presque... On n'arrive pas à la visibiliser auprès des institutions. C'est effectivement... le danger, c'est l'épuisement. C'est qu'aujourd'hui... alors, on a l'impression que dans le champ des médias, dans le champ des réseaux sociaux, on a une visibilité, il se passe des choses, les filles sont hyper actives dans plein de domaines, chacune dans leur domaine, et font, entre guillemets, corps. Mais en fait, les institutions ne bougent pas. Et quand on arrive auprès du grand public dans des séances, comme s'il y avait 200 personnes là aujourd'hui, on est dans des discussions d'opinion. Parce que le sujet du féminisme reste toujours... Enfin, c'est un mot qu'il ne faut toujours pas prononcer. C'est un mot qui fait qu'on finit toujours, comme dans les actions de la barbe, par être traité de mal baisé. Enfin, je veux dire, ça n'a pas évolué depuis 68, finalement. Donc ça, c'est extrêmement épuisant. C'est qu'il n'y a pas de... On a l'impression qu'on n'arrive pas encore à ce que nous, on appelle la masse critique, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de gens qui se saisissent du sujet pour que ça bascule. Alors, je pense qu'on s'en approche, j'espère, parce que sinon, on ne serait pas dans ces luttes-là. Ne ferait pas ses choix professionnels, mais c'est vrai que c'est épuisant. C'est-à-dire que le côté passion, le côté militant, le côté lutte et le côté professionnel se rejoignent, et c'est H24. Parce qu'il ne faut rien laisser passer, y compris quand on fait la queue au musée. voilà. Et nous, à Jean-Réville, on ne laisse rien passer. Donc c'est vrai que c'est un peu dur. Mais il faut continuer.
Moi, j'aimais beaucoup le fait que tu parles de rencontres sans jugement. Parce que c'est exactement ça qu'on apprend sur ces lieux. Enfin, en tout cas, le lieu dans lequel je travaille, qui est vraiment un lieu de rencontre, d'abord, de flux, de passage et de renouveau constant, en fait. Et que ces rencontres-là, sans jugement... et peut-être c'est de ça aussi. Moi, je suis pas si fatiguée. Moi, ça fait qu'un an que je suis à la station, donc ça va. Mais en gros, c'est peut-être la façon dont ces personnes, ces rencontres, sans jugement, nous déplacent à chaque fois et nous font prendre des rôles qui nous déplacent dans nos métiers, dans nos pratiques, qu'on redéfinit à chaque fois. Peut-être qu'on les définit pas parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais à chaque fois, on est resitué ailleurs, et tout d'un coup, on accepte de prendre un rôle et d'y travailler, et d'amener des gens avec nous, de s'outiller, de faire équipe, etc. Peut-être c'est ça aussi, mais qui est vraiment aussi à la source d'un vitalisme. Voilà, je pense.